Bonsoir, bienvenue dans cette émission. Guerre dans l'Est de la RDC. Le 4 juin dernier, le secrétaire d'État américain Marco Rubio disait espérer voir les troupes rwandaises se retirer du sol congolais d'ici la mi-juillet. C'était devant la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants lors d'une audition budgétaire aux États-Unis. Mais au 15 juillet, aucun des engagements des forces de défense rwandaises de RDF n'a été officiellement constaté dans les zones contrôlées par l'ASM-23. Sur le terrain, les combats se poursuivent en dépit des efforts diplomatiques en faveur d'une désescalade. Kinshasa et Kigali continuent de s'accuser mutuellement de ne pas respecter leurs engagements. L'accord de paix signé à Washington prévoyait pourtant les engagements de la RDC et du Rwanda. Kigali s'était engagé à lever ses mesures défensives. De son côté, Kinshasa devait prendre des mesures pour neutraliser les rebelles rwandais des FDLR. Quelle cure faire du non-respect de ces délais du retrait des troupes rwandaises de la RDC à la mi-juillet 2026? Et que pensez-vous de l'évolution de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC? Et à ces questions que nous allons tenter de répondre ce soir, et nous recevons ici au studio Joseph Nkoy, il est député national et cadre de l'Union sacrée de la Nation. Il est aussi rapporteur adjoint de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. Bonsoir, honorable Joseph Nkoy.
Bonsoir, monsieur Guy Maté, merci pour l'invitation. Je dis aussi bonsoir à tous les auditeurs de la Radio Capitale.
Et aussi au studio, Augustin Bissimoy, il est secrétaire général du parti politique MDVC et coordonnateur exécutif national adjoint en charge de la défense et sécurité de la coalition de la gauche congolaise dirigée par l'honorable Jean-Marc Kabound. Bonsoir, Augustin Bissimoy.
Bonsoir, Guy Matin. Salut à tous les Congolais qui souffrent dans la partie est de notre pays.
Et en ligne, Rigen Miviri, il est avocat et chercheur à Ebouteli, partenaire de recherche du groupe d'études sur le Congo GEC en sigle. Bonsoir, Rigen Miviri.
Bonsoir.
Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. RadioOkapi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, parole aux auditeurs et Okapi Service. Téléchargez l'émission de votre choix, vous l'écoutez quand vous le souhaitez. RadioOkapi.net, la radio en différé à votre service.
Nous l'avons dit, guerre dans l'Est de la RDC avec ses constats. L'objectif évoqué par Washington n'a pas été atteint. Le 4 juin dernier, le secrétaire d'État américain Marco Rubio disait espérer voir les troupes rwandaises se retirer de l'Est de la RDC d'ici la mi-juillet. Mais au 15 juillet, aucun des engagements des forces de défense rwandaises RDF n'a été officiellement constaté dans les zones contrôlées par l'AFC M23. Et sur le terrain, les combats se poursuivent, tandis que Kinshasa et Kigali continuent de s'accuser mutuellement de ne pas respecter leurs engagements. Les précisions de Martial Papi Mukeba.
Au 15 juillet 2026, aucun retrait des forces de défense rwandaises, les RDF, n'a été officiellement observé dans les zones contrôlées par l'AFC M23. Sur le terrain, les affrontements se poursuivent au nord et sud Kivu, alors que les deux parties s'acquisent mutuellement de bloquer la mise en œuvre des engagements pris. L'accord de paix signé à Washington prévoit des engagements par Kinshasa et Kigali. Le Rwanda s'est engagé à lever ses mesures de défense, un processus qui comprend notamment les retrait de ses troupes du territoire congolais. De son côté, la RDC doit prendre des mesures pour neutraliser les rebelles rwandais des FDLR. Toutefois, le texte ne prévoit pas des sanctions automatiques en cas de non-respect des engagements par l'une des parties. Résultat, faute des sanctions automatiques, l'objectif évoqué par Marco Rubio est passé sans avancée visible, relevant les difficultés à traduire les engagements diplomatiques en actes. Béni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Merci à vous, Martial Papi Mukeba. Joseph Nkoy, je rappelle que vous êtes député national et cadre de l'Union sacrée de la Nation. Vous êtes rapporteur adjoint de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. Comment vous expliquez les non-respects, ou comment vous analysez les non-respects du retrait des troupes rwandaises de la RDC à la mi-juillet 2016?
Encore une fois de plus, merci pour l'invitation, monsieur Guy Maté. C'est pour moi une responsabilité de participer à cette émission qui traite d'une question capitale, celle relative à la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, principalement dans sa partie orientale. Avant toute chose, je voudrais me faire volontiers le devoir de pouvoir rappeler à tous les Congolaises et Congolais que ça fait pratiquement plus de 30 ans que notre pays est agressé par le Rwanda. Et comme vous le savez, depuis plus de 30 ans, notre pays est agressé et la question que les Congolaises et Congolaises peuvent se poser, pourquoi pendant toutes ces années, cette question n'avait-elle pas été vidée? Et pourquoi? Parce qu'en fait, le Rwanda a développé un narratif mensonger, a emballé, je veux dire, toute la communauté internationale dans son mensonge, évoquant notamment la question de FDLR, venu justement en République démocratique du Congo, je me fais devoir de rappeler, à la suite de la décision du Conseil de sécurité des Nations Unies, facilitée justement par l'armée rwandaise. Et de toute manière, avant de poursuivre, si aujourd'hui le Rwanda peut évoquer la question de FDLR qui constituerait une menace et que son comportement vis-à-vis de notre pays soit ce qu'il est actuellement, c'est en réalité notre pays qui est en train de payer les lourds tributs de son hospitalité. Mais, comme je le disais, devant le mensonge du Rwanda, et pendant toutes ces années, le Rwanda n'a pas rencontré en face de lui un pouvoir à Kinshasa ou des dirigeants ou un président de la République dans notre pays qui puisse justement constituer un contrepoids par rapport à son mensonge. Ainsi, il eût fallu, je veux dire, que le président de la République actuelle, Félix-Antoine Tshisekedi et Tshilombo, soit venu justement pour constater et développer justement une offensive diplomatique pour que le narratif rwandais, narratif mensonger, soit complètement déconstruit. Et c'est, comme vous le savez, c'est cette offensive diplomatique déployée par le président de la République, par le gouvernement de la République, a abouti à plusieurs résultats, dont notamment la signature de l'accord de paix entre notre pays et le Rwanda sous la médiation des États-Unis d'Amérique.
Voilà, c'est l'histoire, hein,
exactement,
que vous rappelez ici.
Exactement.
Mais comment vous expliquez le fait que le délai qui a été accordé au Rwanda n'a pas été respecté pour qu'il puisse retirer ses troupes de la RDC?
Justement, vous posez la question, pourquoi le Rwanda refuse-t-il de pouvoir appliquer l'accord de Washington? C'est ça la question principale. Déjà, de par son histoire, vous savez que l'accord signé sous la médiation des États-Unis, c'est en fait la continuité du processus de Luanda. Et vous le savez, ça doit être, je pense, le 15 décembre 2024, si je ne m'abuse, que le Rwanda ou le président rwandais devait, ensemble avec son homologue congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, se retrouver devant Lourenço pour la signature de cet accord. Mais le pauvre Paul Kagame, dans ses habitudes légendaires, avait refusé de pouvoir signer cet accord. Et étant donné que le président Tshisekedi savait que si nous signons cet accord de Washington, nous mettons à nu toutes les velléités du Rwanda, le Rwanda, le Paul Kagame, refusait de signer cet accord. S'il est arrivé à pouvoir le signer sous la médiation des États-Unis, c'est comme quelqu'un qu'on a pris par la corde. Et donc de manière générale,
on lui a porté la main.
Exactement. De manière générale, ou naturellement, Paul Kagame ou le Rwanda ne peut pas allègrement exécuter cet accord. Je veux dire, avant de donner les quelques éléments de justification pour lesquels le Rwanda ne peut pas exécuter de bonne foi cet accord, j'aimerais relever le fait que notre pays, la République démocratique du Congo, ne peut pas être à la fois ces pays sur les territoires duquel il y a des morts, ces pays sur les territoires desquels les richesses sont volées, soit c'est lui qui met en mal l'exécution de cet accord. Donc il n'y a pas de cohérence. On ne peut pas reprocher à notre pays le fait qu'il ne peut pas exécuter cet accord, d'autant plus que l'exécution de cet accord rentre ou faire en sorte que l'on puisse mettre fin aux tueries rwandaises sur notre territoire, qu'on puisse mettre fin à la soustraction frauduleuse de nos ressources minières.
Mais justement, ce n'est pas aussi le fait que... Est-ce qu'on ne peut pas comprendre l'attitude du Rwanda du fait que la RDC non plus n'a pas respecté son engagement au sujet de la neutralisation des FDLR, parce que l'accord de Washington demande à ce que les deux s'effacent de manière simultanée. C'est-à-dire le Rwanda, pendant qu'il est en train de retirer ses forces de défense, la RDC devrait aussi, n'est-ce pas, neutraliser les FDLR. Est-ce que le refus du Rwanda de retirer ses troupes n'est pas aussi lié au fait que le Congo n'a pas respecté cet engagement-là?
Je vais revenir sur la question de FDLR. Mais je vais vous dire pourquoi le Rwanda refuse-t-il de pouvoir exécuter l'accord de Washington.
Pourquoi?
Parce qu'en effet, si le Rwanda exécute cet accord, toute l'architecture économique du Rwanda est complètement paralysée. Parce que, comme vous le savez, le système économique rwandais actuellement est fondé ou est alimenté par les richesses qui sont soustraites frauduleusement ou dans les conditions les plus inhumaines sur les territoires congolais. Et donc, c'est le Rwanda qui met tout en œuvre, toutes les manœuvres pour que cet accord de Washington ne soit pas exécuté. Je reviens sur la question de FDLR parce que vous en avez évoqué. De toutes les façons, ou de toutes les définitions, toutes les compréhensions que l'on peut avoir sur l'élément neutralisation des FDLR, on ne peut pas oublier le fait que la question de FDLR ne peut pas être résolue sans l'implication du Rwanda, pour quelques raisons fondamentales. Puisque, un, les FDLR ne sont pas des Congolais, les FDLR sont venus du Rwanda, ce sont des Rwandais. Deux, lorsque on parle de la neutralisation, c'est aussi comprendre que les FDLR doivent rentrer chez eux. Comment vont-ils rentrer chez eux si le pouvoir de Paul Kagame ne leur fait pas une offre de paix? À titre de rappel, nous sommes à Nairobi. Lorsque les chefs d'État se sont réunis, lorsqu'il y a eu consultation des chefs d'État et de gouvernement sur la situation sécuritaire et plus démocratique du Congo, il y avait une déclaration justement qui avait sanctionné ces assises, dans laquelle il était fait obligation à tous les pays africains qui ont les groupes armés sur les territoires congolais de pouvoir leur faire une offre de paix. Mais le Rwanda, parce qu'il sait que la question des FDLR, c'est juste un alibi pour justifier ses velléités expansionnistes sur notre territoire, n'avait jamais manifesté un quelconque comportement dans le sens de faire une offre de paix au FDLR. Je reviens sur la question de la neutralisation des FDLR. Comme vous le savez, aujourd'hui, la grande partie des provinces de l'Est sont occupées par les troupes rwandaises avec leurs supplétifs de M23. Et tous les rapports indiquent qu'à ce jour, les 70% de FDLR se trouvent dans les territoires occupés par l'armée rwandaise. Ainsi, on peut se poser la question légitime. Par quelle magie l'armée congolaise et les FRDC vont-elles arriver à neutraliser les troupes rwandaises, enfin les éléments des FDLR qui se trouvent sur les territoires occupés? C'est justement les éléments qui vous permettent à comprendre que la question de FDLR, c'est un alibi du Rwanda, c'est un élément qui justifie ou dont le Rwanda se sert pour justifier ses intentions de pouvoir à la fois déstabiliser les institutions de notre pays, déstabiliser aussi la sous-région, parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, au niveau de l'Afrique centrale, ou même au niveau de l'Afrique de manière générale, c'est le Rwanda, le régime de Kigali, qui sème la terreur en République démocratique du Congo, tue les Congolais à longueur de la journée, pille les ressources de notre pays. Et cette architecture-là nous permet justement de comprendre d'arriver à comprendre pourquoi le Rwanda ne veut pas exécuter les accords de Washington. De toute façon, nous, République démocratique du Congo, nous n'avons aucun intérêt à faire traîner l'exécution des accords de Washington. Ainsi, pour répondre brièvement à votre question, pourquoi aujourd'hui Le Rwanda n'a-t-il pas retiré ses troupes sur les territoires congolais? C'est parce que, justement, le Rwanda se servant de quelques Congolais, je veux dire qu'ils n'aiment pas leur pays, pour justifier le fait que sa présence ou le conflit à l'est du pays, c'est une question congolo-congolaise. Mais nous sommes justement parvenus à lever tout équivoque sur cette question, sur base des efforts qui sont déployés par le président de la République, le gouvernement, et aujourd'hui, la République démocratique du Congo s'en remet justement à, je veux dire, à la détermination des États-Unis, à sa volonté manifestée pour contribuer à la stabilisation en République démocratique du Congo, contribuer à la pacification de l'Est de notre pays. Merci. Justement, comme je l'ai souligné, sans idée pour quiconque de penser que notre pays, notre gouvernement est en train de se soustraire de ses obligations les plus régaliennes qui consistent à sécuriser tout son territoire, à se battre pour la protection de son intégrité et sa souveraineté nationale.
Merci Augustin Bissimoi, secrétaire général du parti politique MDRC, coordonnateur exécutif national adjoint en charge de la défense et sécurité de la coalition de la gauche congolaise dirigée par l'honorable Jean-Marc Kabundo. Votre lecture aussi sur le non-respect du délai qui a été donné, n'est-ce pas, au Rwanda pour se retirer du territoire congolais.
Oui, merci beaucoup Guy Martin pour m'associer à ce débat que je qualifie de pédagogique à partir du moment où il traite d'une question beaucoup plus capitale pour notre pays. Je voudrais d'entrée déjà dire à l'honorable que au niveau de la majorité présidentielle, ils commettent une grande erreur, une grave erreur d'ailleurs, de dire que cette guerre a pris 30 ans. Je lui renvoie, ou je le renvoie plutôt, lire les livres de Maria Masso, qu'on appelle ou intitulé « 5 siècles chez les Bashi ». Et donc, le Rwanda a commencé ses velléités depuis des siècles et des siècles, c'est pas seulement maintenant. Il revenait maintenant à la responsabilité des Congolais de prendre les mesures pour pouvoir, n'est-ce pas, résister comme on l'a toujours fait depuis des siècles. J'ai aimé lorsqu'il a dit que la question des FDLR, c'était un alibi. Je crois que l'erreur que nous commettons, c'est que lorsque nous allons négocier les accords, nous laissons évidemment ceux qui sont censés donner une grande contribution. Parce qu'en les suivant, ils donnent des révélations, et je comprends pourquoi. Il en donne parce qu'il est rapporteur de la commission, n'est-ce pas, défense et sécurité. Et donc, il vous dit que 70% des FDLR se trouvent, n'est-ce pas, dans la zone contrôlée par l'M23. Uh-huh. Mais malgré cela, le gouvernement a signé l'accord en acceptant prendre, n'est-ce pas, ses engagements de traquer les FDLR. C'est alors que, si vous vous rappelez très bien, Guy, on a fait une émission encore ici, parce que l'accord a été signé, n'est-ce pas, le 4 décembre, et déjà en janvier-février, on a fait une émission, et au cours de laquelle j'avais présenté, n'est-ce pas, des ambiguïtés dans cet accord, et je l'ai qualifié d'abord, d'ailleurs, de monstre à plusieurs têtes, en ce qu'il y aura des difficultés sur le plan de la mise en œuvre. Aujourd'hui, nous y sommes. Et parce que, au fait, j'ai d'ailleurs conseillé à l'époque qu'on puisse créer ou à faire ce qu'on peut appeler, par exemple, un addendum ou quand même ou un avenant pour arriver à clarifier quand est-ce que le Rwanda se retire. Est-ce qu'il se retire pendant la neutralisation des troupes ou des FDLR ou après neutralisation? Et l'accord n'a rien dit par rapport à ça. Est-ce que nous devrions, nous, accepter cette charge? J'avais conseillé que non, c'est une erreur stratégique parce que c'était un alibi.
Mais nous l'avons accepté parce que nous avons signé l'accord.
C'est ce que j'ai dit, qu'en signant l'accord, on a accepté, n'est-ce pas, ce qu'il ne fallait pas accepter. Et aujourd'hui, ça nous rattrape.
Et alors, comment vous pouvez comprendre le fait que le Rwanda n'a pas respecté de retirer ses troupes?
La première des choses, c'est que d'abord, l'accord en question a manqué, n'est-ce pas, à avoir des mécanismes de vérification et des mécanismes contraignants. Vous allez vous rendre compte que c'est seulement en date du 2 juillet que le gouvernement congolais a pu envoyer, n'est-ce pas, les experts des FARDC pour contribuer, n'est-ce pas, à ces mécanismes de vérification. Donc l'accord est signé le 4 décembre et ce n'est que le 2 juillet que le gouvernement, à travers les ministres de la Défense, écrit une correspondance pour désigner trois experts qui vont intégrer les mécanismes de suivi, n'est-ce pas, de cesser le feu. Et donc, ce qui fait qu'à ce stade-là, il y a un problème entre les parties, entre elles. Est-ce que les parties sont prêtes, toutes les deux, à respecter cet accord? Je me dis que non. Parce que s'il y avait cette bonne volonté, d'abord, s'il y avait les mécanismes contraignants, de façon à ce que l'accord dise de manière explicite que quiconque passerait outre cet accord devrait, n'est-ce pas, avoir telle ou telle autre sanction. Mais ça n'a pas été dit dans l'accord. C'est alors que nous nous avons conseillé au niveau, n'est-ce pas, de la coalition de la gauche congolaise avec l'honorable Jean-Marc Kabonde que l'on puisse clarifier les choses à ce niveau-là. Ce n'est pas une honte de dire sept mois après, on peut évaluer où est-ce que nous en sommes et aller dire, écoutez, il faut clarifier certaines choses qui posent problème sur le plan de la mise en œuvre et notamment les mécanismes contraignants, n'est-ce pas, de l'exécution. De deux, arriver à clarifier par rapport au mécanisme de traque des FDLR, quand est-ce que le Rwanda lève ses mesures défensives? Est-ce que c'est avant la neutralisation de FDLR, une tâche ou un engagement que la RDC s'est taillée par une grosse erreur, alors que connaissant très bien, parce que s'il aurait dû demander conseil, n'est-ce pas, à la commission défense et sécurité, je suis convaincu que la commission allait lui dire n'acceptez pas ça parce que 70% des FDLR se trouvent dans la zone contrôlée par le M23. Mais malgré cela, on a envoyé des experts qui apparemment ne comprennent rien et ils ont signé. Aujourd'hui, ça nous colle au cou. Et donc, pour évoluer, je me dis, mais comment on se retrouve d'abord à Washington? Parce que nous avons tous travaillé sur la résolution 2773. On a écrit plusieurs correspondances à l'ONU et je me rappelle, Dr Justin Moudekereza a aussi écrit, et au point qu'on a eu cette résolution. Et cette résolution 2773 a exigé, il a été formel et demandé le retrait immédiat et sans condition des troupes rwandaises et demandé la cessation immédiate d'appui du Rwanda au M23. Et pendant qu'on était en train de vouloir réclamer la mise en œuvre, le gouvernement se retrouve à Washington pour aller négocier un accord comme celui-ci qui contient beaucoup d'ambiguïté et qui ne va pas être respecté sur le terrain. J'avais mis ma main à couper depuis janvier. Nous sommes en juillet aujourd'hui. Où est-ce qu'on en est? Les morts continuent à être enregistrés. Et j'avais regretté le fait que c'est tous les jours les Congolais qui meurent, pas les Rwandais. Alors que nous avons la Charte des Nations Unies à son article 2 qui interdit toute agression des États membres. Et donc, nous sommes au niveau où le Rwanda nous a agressés. Et l'ONU devrait comprendre qu'il faut faire usage à cet article 2 de sa charte qui interdisait à ce qu'on ne puisse pas recourir, n'est-ce pas, à la force s'il faut régler le conflit. Mais lorsque nous allons à l'article 51 de la même charte, il fait exception, n'est-ce pas, à cette violation de l'intégrité territoriale. Ça veut dire que tout État qui se sent agressé a aussi le devoir, bien reconnu par l'ONU, de pouvoir se défendre. Mais nous sommes en face d'un gouvernement qui dit chaque fois qu'il n'est pas belliqueux envers Kagame. Nous sommes en face d'un gouvernement qui comptabilise les morts, mais qui lui est incapable de lancer une seule bombe au Rwanda. Parce qu'il faut équilibrer les forces. Mais comment on ne veut pas... En fait, on a vu comment au niveau de l'Ukraine. L'Ukraine est agressée par la Russie. Et l'Ukraine essaie un peu de montrer à tout le monde qu'elle est agressée à travers, n'est-ce pas, ces mesures défensives et de réciprocité. Si on envoie 10 drones à l'Ukraine, l'Ukraine, dans sa faiblesse, essaie d'en envoyer aussi 8 ou 12. Mais nous, depuis que la guerre a commencé...
Évidemment, on ne va pas comparer les deux situations. Mais lorsqu'on observe la situation sécuritaire sur le terrain, on a l'impression que les processus de Washington ainsi que celui de Doha n'ont pas du tout fait bouger les lignes sur le terrain. Est-ce que vous partagez cet avis-là?
Oui, tout à fait, parce que l'accord de Washington avait prévu, n'est-ce pas, deux phases. Il y a la phase où on s'est dit qu'on a deux nations ou des États qui sont en conflit, et il faut régler ça comme conflit international entre deux États. Mais aussi, l'accord a renvoyé le gouvernement à aller négocier avec l'M23 à Doha. Parce que c'est depuis que la guerre a commencé, au Congo, on n'avait jamais reconnu qu'il y avait une partie, n'est-ce pas, de ce conflit qui est qui est national. Et donc, on ne voyait que la partie internationale. Mais à Washington, on leur a dit, écoutez, non, il ne faut pas voir les choses comme ça. Voyez les choses telles que réellement il y a agression parce qu'il y a une troupe étrangère, plutôt des troupes étrangères sur notre sol, mais aussi il y a, et comme il a reconnu, il y a des Congolais qui ont pris les armes contre leur pays. Ce qui fait qu'il faut aller à Doha. Mais depuis Doha, ça n'a jamais marché, parce que ça ne marchera pas, en ce sens que les deux parties aujourd'hui n'ont pas intérêt à ce que la guerre cesse. Je vous ai dit plusieurs fois que toutes les parties...
Même la RDC n'a pas intérêt à ce que la
guerre
cesse.
Mais pas du tout.
Mais qu'est-ce que la RDC gagnerait, n'est-ce pas, en entretenant cette guerre?
Non, lorsque vous lisez très bien comment est-ce que les communicateurs du régime vous révèlent des secrets... En fait, j'ai du mal à discuter des questions sectaires sur la place publique.
Vous faites allusion à quoi?
Parce qu'il y en a qui vous disent qu'on gère très mal cette guerre. Les fonds alloués, n'est-ce pas, à la guerre sont détournés à grande couture. Et nous sommes au niveau où on ne sait pas actuellement comment est-ce qu'on va se comporter. Vous avez Kalondi qui vous dit qu'on a débloqué 250 millions de dollars pour achat de drones. Et que celui à qui on a donné les fonds vous amène seulement des drones et il vous dit que les autres sont en route. Et depuis une année, ils ne viennent pas. Il n'y a pas de sanctions jusque-là. Et il est dit sur la place publique. Et c'est là que nous interpellons le régime à pouvoir recadrer ses communicateurs. On ne communique pas n'importe comment sur la guerre parce que les militaires ont besoin, n'est-ce pas, d'une certaine cohésion.
Merci.
Voilà un peu là où nous pensons que ça va poser des problèmes sur le terrain.
Merci. Regen Miviri, avocat et chercheur à Ebouteli, partenaire des recherches du groupe d'études sur le Congo, GEC en sigle. Vous également, hein, quelle est votre lecture, n'est-ce pas, du non-respect de ces délais du retrait des troupes rwandaises de la RDC à la mi-juillet 2026?
Oui, déjà il faut rappeler que ce n'était pas un délai ferme. Dans le reportage, on l'a bien dit, M. Marco Rubio espérait, et le mot tous les sens, donc il n'y avait pas une date précise, disons, un calendrier clair dans les engagements pris depuis lors. Donc, ce qui fait que beaucoup d'acteurs ils jouent sur cette ambiguïté-là. Donc, chacun conditionne l'exécution de son obligation à l'exécution de l'obligation par l'autre partie.
Mais aussi des troupes déployées dans cette partie du pays depuis environ 5 ans, leur demander de se retirer dans un délai pratiquement d'un mois, était-il réaliste? Est-ce que ce délai-là n'était pas court?
Non, je ne pense pas que le délai est irréaliste. Dans le passé, on a vu des troupes rwandaises quitter le territoire congolais dans quelques semaines. Donc, c'est possible, mais est-ce qu'il y a la volonté derrière? Je pense qu'il n'y a pas la volonté à le faire, il n'y a pas intérêt à le faire, et il n'y a pas de sanctions à ne pas le faire. Donc, c'est beaucoup plus, je pense, cette question-là. Les acteurs, ils se sont engagés, mais ils n'ont aucune pression à exécuter leurs obligations. On est dans une logique du droit international. Normalement, c'est un accord entre deux pays. On pourrait penser qu'ils vont s'exécuter de bonne foi. Il y a le principe de bonne foi à ce qui concerne les engagements internationaux. Et on pourrait imaginer, en fait, que, voilà, et qu'ils comprennent qu'en fait, comme on l'a dit en latin, Pacta sunt servanda, qu'ils sont soumis à leurs engagements et qui doivent les exécuter de bonne foi. Mais en fait, on sait que le monde est tel que les États ne s'exécutent pas tout simplement parce qu'ils se sont engagés. Ils font des calculs politiques. Donc, il faut replacer aussi, encore une fois, cet engagement dans un processus politique. Tant que les uns les autres ne pensent pas avoir eu des gains sur ce qui était leur motivation à déclencher ces offensives, je ne pense pas qu'ils vont tout simplement se désengager. en ce qui concerne par exemple le Rwanda, c'est important de comprendre pourquoi les Rwandais agressent la RDC. C'est bien de qualifier ce qui se passe, de qualifier le fait d'agression. Oui, il s'agit d'une agression, mais c'est important de comprendre pourquoi cette agression. Et si, en tant que gouvernement, on se limite juste à dire et à rappeler qu'il s'agit d'une agression, ce n'est pas suffisant. Je pense qu'il faut aller encore plus loin pour comprendre pourquoi cette agression a été possible.
Et à votre avis, comment on peut expliquer cela? Pourquoi l'agression a été possible?
Internes, en fait. Il y a beaucoup de gens qui voudraient bien agresser leurs voisins, mais ils n'ont pas le moyen de le faire. Et leurs voisins, ils se sont suffisamment protégés pour ne pas être agressés. Donc, on ne peut pas se limiter juste à dire que voilà, on est agressé, et ben voilà, et que les gens, dans le concert des nations, les gens vont être de bonne foi, ils vont condamner, et puis ils peuvent bien condamner diplomatiquement par deux paroles, mais aucun pays ne va mettre, par exemple, sa sécurité ou bien ses intérêts économiques en jeu, tout simplement parce qu'il veut servir les intérêts du Congo. C'est ça ce qu'on doit comprendre. Vous vous demandez pourquoi, malgré toutes les mobilisations, seuls les États-Unis ont pu prendre des mesures contraignantes contre le Rwanda. C'est tout simplement parce qu'ils peuvent se le permettre et en retour, ils espèrent trouver des gains économiques. Et c'est pour ça que, comme vous l'avez vu, il y a eu un accord de paix qui a été suivi par des accords aussi économiques avec les États-Unis. Donc, clairement, on est dans une logique transactionnelle. Et donc, on ne peut pas penser que, dans une logique transactionnelle, que le seul argument de violation de droit international est suffisant. Je pense qu'il faut aller au niveau aussi de penser sur le rapport de force sur le terrain, mais aussi aller sur la question de dans quelle mesure le pays aussi il se met dans une position d'être respectueux de ses propres engagements et de faire de bonnes négociations. Déjà là, par exemple, si on remet en cause les engagements qu'on a soi-même pris, sachant que, bien sûr, la situation sur le terrain peut évoluer, mais encore une fois, il faut revenir autour de la même table pour faire valoir les nouvelles données du terrain.
Voilà. Les Rwandais se plaignent en disant que les médiateurs, que les États-Unis exercent la pression seulement sur la partie rwandaise et pas sur la partie congolaise en ce qui concerne le respect des engagements pris par les deux parties. Le Rwanda a-t-il raison? Est-ce que vous comprenez les plaintes du Rwanda?
Ben, je pense que le Rwanda, sur ce point-là, déjà, il est de mauvaise foi parce que, bon, en fait, le seul qui est sur le territoire de l'autre voisin, c'est le Rwanda. Donc, il n'est pas possible de mettre le Rwanda et la RDC sur le même niveau à ce qui concerne ce conflit. D'abord, ça, je pense que c'est clair. Mais encore une fois, dire ça, c'est encore juste se limiter au discours de droit international. Oui, en termes de droit international, il y a un agressé et un agresseur, mais ce n'est pas suffisant pour résoudre la question.
Voilà, on se rend compte
à un niveau élevé à dire que même si les sanctions ont touché le Rwanda, c'est peut-être la mérité parce que voilà, ils sont en violation du droit international. Mais dans quelle mesure ces sanctions-là sont en train d'améliorer la situation sur le terrain?
Ah voilà, ça c'est la question.
Pas certain. C'est la question. Malheureusement, ce n'est pas certain. Il y a eu des sanctions, mais jusque-là, ça n'a pas forcé les Rwandais à changer ses attitudes sur le terrain.
Justement,
d'ailleurs, oui. Il y a encore beaucoup de soutien au M23 après ces sanctions.
Voilà, justement, on se rend compte que même en dépit de l'implication du garant américain dans ces processus, la situation sécuritaire reste complexe. Mais à votre avis, cette complexité peut se justifier par quoi?
la question n'est pas si complexe que ça. La question, elle est au niveau des intérêts des uns et des autres. Je pense que, par exemple, la question des FDLR, on ne doit pas se voiler la face. Si la RDC parvenait à résoudre la question des FDLR, ce n'est pas seulement parce que le Rwanda le demande, mais c'est parce que c'est aussi une question sécuritaire pour la RDC. Il faut chaque fois aussi les rappeler comme ça. Dire tout simplement que voilà, c'est un prétexte du Rwanda, c'est un peu quand même aussi un mépris en fait pour les victimes congolaises qui ont souffert des affres aussi de ce groupe, autant de tous les autres groupes armés étrangers et nationaux. Donc, on ne devrait pas avoir un discours un peu complaisant avec le groupe FDLR. Il est dans la responsabilité de la RDC de reprendre sa souveraineté sur tout son territoire et tout groupe qui remet en cause la souveraineté de l'État congolais ou bien qui veut prendre les attributs de l'État ou qui attaque les populations congolaises, l'État devrait se mettre dans la position d'y mettre fin. La question importante, c'est maintenant de savoir est-ce que l'État a le moyen de le faire, mais la volonté, elle devrait l'avoir parce que c'est la responsabilité de l'État de protéger d'abord sa population.
Et
ça soit un prétexte pour les Rwandais, peu importe, mais ce qui est important, c'est que c'est un vrai problème sur le terrain.
Voilà, et si la question...
C'est pas le principal problème, mais c'est l'un des problèmes de l'insécurité aussi à l'Est du Congo.
Oui, Regan Miviri, si on arrivait à régler effectivement cette question FDLR, vous pensez que les Rwandais n'auraient pas d'autres raisons, n'est-ce pas, pour justifier sa présence en RDC?
Ils pourront toujours les avoir parce qu'en fait, comme on l'a dit ici, nous tous on sait que pour le Rwanda, ça peut être un prétexte. Mais pour le Congo et pour les civils congolais, ça n'est pas forcément un prétexte, c'est une réalité. Donc il faut le résoudre pour les raisons évidentes que je vais donner ici. Et puis ensuite, ça signifierait aussi qu'on aura levé un prétexte du côté du Rwanda. Et donc, s'il continue à être sur le territoire congolais, ça sera pour d'autres raisons et on pourra encore avoir un argument de plus, en fait. Mais si tout simplement on se résigne en disant, ben voilà, malgré qu'on s'est engagé à Washington, c'est un prétexte, donc on ne va pas le faire, ben, on sera dans la même position que le Rwanda, on n'aura pas respecté un engagement pris solennellement.
Merci. Nous allons maintenant donner la parole aux auditeurs qui sont en train d'appeler pour réagir, n'est-ce pas, par rapport à cette thématique. Honorable Joseph Koï, nous allons dans le Bandundu, la province du Kwilu, et nous allons donc écouter la réflexion de cet auditeur et vous allez réagir à ça.
Christian Katuta depuis Bandundu dans la province du Kwilu. Cette impasse démontre les faiblesses de notre gouvernement et par ricochet les limites de sa diplomatie mise en place. Nous voyons comment les États-Unis prennent fait et cause pour l'Israël contre l'Iran au Moyen-Orient actuellement. Alors pourquoi concernant la RDC ça ne marche toujours pas? Pourquoi cette impasse? Donc doit-on accepter que sur le plan international le Rwanda pèse plus que nous et que par conséquent les stratégies de Kigali marchent bien? Je ne fais pas ici l'apologie du Rwanda mais c'est la vérité. Car déjà depuis la nuit des temps, l'argument des FDLR pour justifier la présence des éléments rwandais sur notre sol a permis au Rwanda de compliquer la situation à la RDC. Le ministre Patrick Mouyaya nous dit qu'il y a quelques FDLR qui sont identifiés et neutralisés, mais pourquoi le Rwanda ne fait pas sa part et pourquoi nous continuons de nous accuser mutuellement? Le Rwanda ne veut pas mettre fin à cette guerre. Selon moi, une seule solution est envisageable à ce stade, que les Américains nous aident à mettre fin à cette guerre s'ils sont vraiment sincères et s'ils veulent vraiment coopérer avec nous.
Honorable Joseph Nkoy.
Bien, merci beaucoup. Accordez qu'avant que je ne puisse réserver quelques éléments de réponse à la préoccupation soulevée par M. Christian, que je revienne sur l'intervention de mon frère en face,
Augustin Bissimois,
et peut-être un mot sur notre co-débatteur qui est
Regan Mirindi.
Mon frère Bissi m'a dit que mes rappels à l'ordre pour dire que cette guerre ne date pas de 30 ans, c'est depuis des siècles, et qu'il revenait à la responsabilité, revenait à notre pays de pouvoir prendre des mesures pour résoudre définitivement cette question. Ce que moi je peux relever à ce niveau, même si vous allez tout refuser du président Tshisekedi, parce qu'en fait c'est lui qui est le patron de la locomotive, mais si vous allez tout lui refuser, vous ne pouvez pas lui refuser le fait qu'il est le premier président de notre pays qui a levé les tons contre l'agression rwandaise. Puisque si ses prédécesseurs avaient pris à bras le corps cette question des conflits sécuritaires en République démocratique du Congo, précisément dans sa partie orientale, on n'aurait pas vécu ce que nous sommes en train de vivre. S'il y a eu cette résurgence des conflits, c'est parce que, évidemment, ceux qui ont prétendu résoudre cette question ne l'avaient pas fait de manière définitive. Et la posture du président Tshisekedi actuellement, ce n'est pas de résoudre de manière précaire la question de la sécurité en République démocratique du Congo, mais que cela soit résolu de manière définitive pour que justement nous puissions nous mettre sur le rail du développement, oublier toutes les questions d'instabilité.
Est-ce qu'il faut réagir à la réflexion de l'auditeur Christian?
Oui, si vous m'accordez, je vais revenir encore. Quelques secondes. Sur la question de la neutralisation de FDLR, il ne faudrait pas que vous puissiez lever cela ou s'en servir comme un élément dans le cadre de vos discussions. Lorsque nous sommes à Luanda, nous sommes à Washington, le Rwanda levait cet élément-là ou brandissait cet élément-là comme le seul alibi pour lequel le Rwanda ne peut pas signer un quelconque accord sans que cette question soit résolue. Et puisque notre gouvernement connaissait les contours de cette question des FDLR, nous avions signé, mais il faut relever ici que la question des FDLR ne peut pas véritablement être un obstacle, être ce qui empêche le Rwanda à exécuter ses engagements. Ça relève simplement de sa mauvaise foi, pas plus, pas moins. Je reviens sur Christian. Il faudrait faire la part des choses. Je note ici, en toute responsabilité, qu'il n'y a aucune gouvernance au monde qui soit parfaite. La gouvernance étant l'œuvre humaine, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Et c'est tout à fait normal qu'il y ait des faiblesses dans le chef du gouvernement. Mais on ne peut pas aujourd'hui dire haut et fort que le gouvernement de notre pays, effectivement, je suis député, mais je me fais le devoir de pouvoir relever cela, justement parce que le gouvernement fait une part des responsabilités, même si on n'est pas encore arrivé à l'objectif escompté, au résultat escompté, mais le gouvernement de la République déploie, à mon avis, tout le moyen nécessaire, prend toutes les mesures pour que nous arrivions à résoudre définitivement cette guerre à l'est de notre pays.
Mais Augustin Bissimo pense qu'il n'y a pas de volonté de la part aussi du gouvernement congolais de pouvoir mettre fin à cette crise dans l'est du pays.
C'est en fait une confusion qu'ils entretiennent. Je n'en veux pas à l'opposition. Ce sont des compatriotes. Ils estiment défendre notre pays. Mais j'ai comme l'impression qu'eux n'arrivent pas à comprendre la vraie réalité. Parce que vous parlez de cette question. Je note ici que notre pays, le gouvernement de notre pays, le président de notre pays, n'a aucun intérêt à entretenir la guerre. Si vous pensez qu'un jour vous serez au pouvoir et que vous allez utiliser la guerre comme instrument pour rester définitivement au pouvoir, telle n'est pas la position des institutions actuelles. J'ai quelques secondes. Il ne faut pas faire la confusion entre les questions de gouvernance interne et l'agression rwandaise. C'est ça l'erreur de l'opposition. C'est de pouvoir confondre les faiblesses internes et ou soit lier les faiblesses internes à l'agression rwandaise. Si nous sommes tous des Congolais, des vrais compatriotes, nous voulons que ces pays puissent aller de l'avant, eh bien nous devons tous nous mettre d'accord sur le fait que nous avons en face de nous un ennemi commun qui est le Rwanda, qui maîtrise l'intégrité, qui menace l'intégrité de notre territoire, et que nous tous nous mettons d'accord, on fait tout, on constitue les camps, ce que j'appelle les camps de la patrie, nous mettons hors état de nuire, hors notre territoire, le Rwanda et ses troupes, et nous allons résoudre nos différends au niveau interne. Mais le fait de confondre les deux relève justement du fait qu'on participe, mais de manière implicite, à la stratégie du Rwanda.
Augustin Bissimon, vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui appelle depuis la ville de Bounia dans l'Ituri.
Bonsoir la radio de la paix, moi c'est Fiston Masirika Ushindi depuis Bounia RDC. La seule langage qui écoute notre voisin, c'est l'usage de la force. Tant que la RDC restera à ce stade de diplomatie sans la force derrière, elle demeurera sous la puissance de son agresseur qui est le Rwanda. S'il sait, on demanderait au gouvernement congolais, s'il n'est pas prêt à la guerre, vaut mieux négocier pour envisager une paix quelconque. Merci beaucoup.
Ok, c'est ici moi.
Oui,
c'est ce que le gouvernement fait, hein? Il est en train de négocier, n'est-ce pas?
De prime abord, je voudrais revenir sur ce qu'il vient de dire ici.
Hein? Allez-y rapidement, on n'a pas de temps.
Il a eu beaucoup de temps.
Non, non, vraiment, essayez de vous résumer.
Je
veux
dire qu'il a une confusion, et cette confusion règne au sein de toute la majorité. Lorsqu'il pense que Tshisekedi est le premier à parler de Kagame comme agresseur, est-ce que vous avez en face de vous les gens qui ignorent l'histoire de ce pays? Quand, en 1999, il y avait l'accord de Lusaka. Quand En 2002, il y avait l'accord de Pretoria et qu'il y avait un communiqué de Nairobi en 2007. Et que tout ça, ça fait partie, n'est-ce pas, des problèmes que la RDC est allée, n'est-ce pas, vis-à-vis du Rwanda. Et donc, dire que Tshisekedi est le premier, je crois qu'il faut une publicité inutile. Alors, lorsqu'il s'agit de, comme l'a dit Fiston, hein, je pense qu'il a raison. Et il a raison en ce sens que les États forts arrivent à entretenir leurs armées. Pourquoi? C'est pour se prémunir de toute attaque, de toute agression. Nous sommes entourés de 9 pays voisins. Si on pense que tous les pays voisins là nous feront des cadeaux, je pense qu'on est en face des gens qui ne comprennent pas qu'est-ce que c'est les États, parce que là il n'y a pas d'amis. Et il vient de parler ici des faiblesses internes, des gouvernances qu'on ne peut pas confondre avec l'agression. Effectivement, le pays agresse un autre lorsqu'il se rend compte qu'il est plus fort que lui. Et donc, si nous ne sommes pas forts, tout le monde viendra, n'est-ce pas, nous ravir tout ce que nous avons. C'est comme ça que nous devons nous organiser et éviter ces faiblesses de gouvernance dont il a reconnaissance. Parce que si nous les évitons, effectivement, aucun pays ne va blaguer. Nous allons avoir une armée dissuasive, bien équipés, bien motivés, bien organisés. Et quand on les a, cela suppose une discipline dans la gouvernance. Mais il reconnaît qu'il y a des faiblesses de gouvernance et il évite de lier cela. C'est tout à fait normal qu'on les lie. Parce que tant qu'on sera faible, les autres viendront toujours nous arracher tout ce que nous avons. Et je pense que c'est... Et revenons-moi au retrait des troupes. Je me pose des questions. Quand bien même le Rwanda a accepté de se retirer, qui est-ce qui a identifié? Il a combien d'hommes sur notre sol? Lorsqu'il se retire, il retire combien? Alors qu'on sait qu'au sein du M23, vous y avez ce qu'on appelle Tugwanero. Ce sont des Banyamulenge, de tous des rwandophones. Et donc, quand on retire le Rwanda avec 14 000 hommes, il vous dit non, j'en avais que 4 000 et 2 000 sont morts, je retire 2 000. Et il laisse les autres côtés de Nanga. Qui est-ce qui va vérifier tout ça?
Et justement, c'est pourquoi c'est là même la nécessité d'avoir ces mécanismes de surveillance, non seulement de cesser les feux, mais aussi...
Non, mais ces mécanismes vont faire quoi? On a envoyé 3 experts là pour vérifier. Comment ils vont vérifier qui est rwandais et qui ne l'est pas? Comment on va le faire? Et donc, c'est la force, si nous ne pouvons pas nous organiser une bonne gouvernance pour que nous puissions avoir, n'est-ce pas, une armée forte et dissuasive, éviter, n'est-ce pas, cette division au sein de l'armée, éviter des publicités négatives contre notre armée, avec les communicateurs de l'Union Sacrée qui détruisent à plate couture notre armée, dire que non, voilà, les militaires de Katangé ont fait tuer les militaires kassaïens. Ça, on doit éviter. Ça, nous avons connu, nous avons écrit qu'il faut éviter cela.
On n'évoque pas ce genre de questions ici. Hein,
c'est à la place publique, moi, j'ai condamné cela.
Nous sommes un média de la paix, il ne faut pas évoquer ce genre de questions ici. Rigen Miviri, vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis Kamina dans les Haut-Lomami.
Maître Néhémie Trésor Chimba depuis Kamina dans la province du Haut-Lomami. À mon humble avis, je pense que sur le plan juridique, le non-respect du délai espéré pour le retrait des troupes rwandaises ne signifie pas automatiquement la caducité ou l'échec de l'accord de paix, sauf si celui-ci fixait un calendrier contraignant assorti des mécanismes de vérification et des sanctions. En droit international, les principes pacta sunt servanda imposent aux parties d'exécuter de bonne foi les engagements qu'elles ont souscrits librement. Si la présence de forces étrangères sur le territoire congolais se poursuit sans le consentement de la RDC et en dehors d'un fondement reconnu par le droit international, elle peut être interprétée comme une atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la
RDC. Je pense que vous avez dit de la RDC. Regan Miviri, votre réaction?
Je suis d'accord avec lui, mais encore une fois, comme je le disais ici, il y a le limite de ces juridismes qu'on nous raconte à longueur de journée. En fait, le droit international, et je le dis en tant que juriste, en tant que spécialiste du droit international, c'est très bien de le dire, c'est très bien de l'évoquer, mais malheureusement, ce n'est pas suffisant pour résoudre une crise. Le droit international, il n'est pas violé seulement en RDC, il est violé en Ukraine, il est violé en Gaza, il est violé en Iran. Donc on ne peut pas avoir que ça comme outil ou comme pierre dans notre juvétière.
Justement, quels sont les autres outils, quels sont les autres outils et beaucoup plus efficaces pour régler de manière durable cette question de l'Est?
Je ne dis pas que le droit international est inefficace. Il a ses charmes. Il a peut-être aussi là où il peut aider. Mais ce qui va encore plus faire avancer les choses, c'est la politique. En fait, et je pense que c'est là où on n'a pas fait assez, et c'est là où on n'a pas construit en fait. Une suprastructure qui empêche à ce que les gens de l'extérieur ne puissent profiter de nos faiblesses à l'intérieur. Pourquoi je parle de la politique? Vous imaginez que pendant tout le temps qu'il y a cette guerre, il y a des Congolais à l'interne qui sont obligés de avoir un discours un peu ambigu, tout simplement, parce qu'ils ne veulent pas avoir le même discours que le pouvoir qui est en train de le réprimer. Ou par exemple, ils ne peuvent pas rentrer dans leur pays, ils sont au contraire à l'exil, et donc là, ils vont parler de la répression qu'ils subissent, et ça devient malheureusement une mauvaise publicité sur un pays qui subit encore une agression, mais merci, qui encore est considéré comme un pays qui ne respecte pas les droits humains. Donc, on doit travailler sur notre politique interne, on doit faire en sorte que notre défense, on puisse la remettre à niveau, parce que c'est de notre droit en tant que pays de se défendre contre une agression.
Merci, Regan.
Et cela, on doit le faire de manière cohérente, dans une idée de cohésion nationale, et non pas comme si gagner la guerre, c'est à l'avantage juste d'un seul camp. Non.
Merci, on a compris.
Le Congo nous appartient.
Voilà, on a compris. J'ai compris ça comme votre conclusion. Joseph Koyi, vous allez aussi conclure en 30 secondes, hein, parce qu'on a plus de temps.
Merci beaucoup.
Donnez juste le message essentiel.
Oui, je rappelle ici que l'accord de Washington n'a pas annulé la résolution 2773. Par contre, l'accord de Washington a même évoqué la résolution 2773. Une question que je peux poser à nos amis de l'opposition. Nous sommes agressés par notre État voisin. Qu'est-ce que l'opposition fait pour faire face aux velléités du Rwanda, à part dresser la population contre les institutions de la République? Je pense que si nous aimons notre pays, il faut que chacun de nous joue sa partition. Merci. Que nous puissions mettre fin aux velléités du Rwanda pour qu'enfin nous puissions, au niveau interne, résoudre nos propres
Merci.
Problèmes.
Merci. Augustin Moussima, votre conclusion, la réaction à la question.
C'est que l'opposition fait, elle vous donne des propositions concrètes.
Elle vous conseille d'éviter les détournements des deniers publics. Elle vous conseille de gouverner très bien la République,
d'asseoir la cohésion nationale pour qu'on fasse face ensemble contre l'agression. Il vous conseille d'éviter de créer des crises pendant qu'on a une crise sécuritaire. Vous avez créé des crises politiques. Aucun État sérieux, aucun gouvernement sérieux ne peut envisager les changements de la Constitution pendant que son pays est agressé. Aucun.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Honorable Joseph Nkoye, M. Augustin Bissimoua et M. Rigen, Maître Rigen Miviri. Merci aussi à tous les auditeurs qui sont intervenus dans cette émission, mais aussi à Donna Madimba et Benjamin qui l'ont réalisé, et Patrick Kiasongwa et Dieudonné Nyangasa qui était à la technique, à Chembe et Loku qui a assuré le live de cette émission, à la présentation Guy Maté. Merci encore une fois de plus et bonne suite des programmes sur Radio Capitole.